en osmose toute la journée, retrouvez les acteurs du off.
Osmose Radio.
Osmose.
Osmose.
La web radio du off.
Le corps des femmes, il nous fascine, on l'admire dans la rue, des fois on se fait engueuler d'ailleurs pour ça, et non sans raison d'ailleurs, il nous fascine et parfois il est aussi assez difficile à vivre pour les principales concernées, pas forcément pour des raisons médicales, aussi pour des raisons sociales, bref, un champ de réflexion assez important et qui nous touche aussi, nous les garçons, et moi le premier, puisque même si on n'est pas forcément directement concerné, c'est un petit peu l'objet de ce spectacle dont on va parler aujourd'hui avec Flore Grimaud et Caroline Sahuquet. Bonjour.
Bonjour.
Merci. Alors,
merci de vous d'être venu. Alors, vous faites votre première représentation au Festival Off 2021 demain, mercredi 21 juillet, et vous êtes venu pour la dernière dizaine du festival. C'est au Théâtre de la Condition des Soirs, qui est rue de la Croix, donc juste à côté de la rue Carnot. C'est assez facile à trouver. C'est à 12h45 tous les jours. Alors, vous êtes là avec la compagnie que vous avez fondée il y a en 2002, c'est ça ?
Oui, il y a un bout de temps qu'elle existe, la compagnie.
D'accord. 2002, donc la compagnie Mi Fugue Mi Raison. J'adore le jeu de mots. Des spectacles qui ne vous laisseront sans doute pas mi-figue mi-raisin, ça j'en suis sûr. Notamment celui que vous êtes venu défendre à Avignon, qui s'appelle Speculum. Alors Speculum n'a rien à voir avec les biscuits à la cannelle. Speculum, cet instrument de gynécologie en fait, qui aide à explorer un petit peu, le terme n'est pas très délicat, mais c'est celui qu'utilisent les spécialistes, à explorer le vagin des dames pour faire des examens gynécologiques. Alors moi, à tort ou à raison, la première comparaison qui me vient à l'esprit, c'est le tripalium, cet instrument de torture de l'époque romaine, quoi. Speculum tripalium, même combat, j'ai envie de dire, des fois.
Absolument, bah, c'est assez juste, hein. C'est un peu ce qu'on dénonce aussi, c'est que cet instrument a été inventé par un homme pour pouvoir faciliter le travail des hommes, puisque c'est les gynéco-hommes qui s'y ont colonisé le corps des femmes, qui ont commencé à vouloir utiliser cet instrument. Mais si on...
cet instrument a été donc inventé par le docteur James Marion Sims, qui est un homme qui faisait des expériences sur des esclaves noirs.
C'était au 19e siècle, non ?
Au 19e siècle.
Ouais, de 1845 à 1849.
D'accord.
Il opérait des femmes, voire il y a eu une femme, Anarka Westcott, qui est devenue une femme assez emblématique de cette souffrance-là. Il a opéré plus de 30 fois sans anesthésie à titre d'expérience. Et une fois qu'il a pu, qu'il a fait ses expériences, il s'est mis à opérer des femmes blanches sous anesthésie.
Les Britanniques ont aboli l'esclavage avant nous autres Français, mais pour autant, ils n'ont pas été beaucoup plus délicats avec le corps des femmes noires. C'est aussi l'époque de la Vénus hottentote.
Exactement, donc on parle également.
Voilà, donc,
mais speculum, ça veut dire ouvrir et regarder, ce qui est un peu l'objectif du théâtre. Ouvrir et les yeux et le cœur des gens sur des sujets qui pourraient leur sembler au départ un peu froid, frileux, peu engageant, alors que en réalité, on vous invite dans un voyage et une fresque qui est un tourbillon de 50 personnages à 3 actrices et qui vous permet de rentrer dans l'intimité tout en gardant la distance nécessaire pour vous sentir protégé en tant que spectateur.
Oui, ça va de soi tout de même. Mais donc, on sent dans le temps que vous employez, dans vos propos déjà, que votre engagement féministe, c'est tout à votre honneur. Mais moi, mon rôle, que ça plaise ou non, c'est aussi parfois de prendre le contre-pied de ce que vous voulez dire. Et quand vous dites que le speculum a été inventé par des hommes dans un but ou en tout cas une perspective de colonisation du corps des femmes, alors à contrario, pardonnez-moi, est-ce qu'une femme aurait utilisé un autre moyen plus judicieux à votre avis ?
Ah ben, on peut pas le savoir.
Avec la technologie de l'époque.
Parce que l'histoire est racontée par les vainqueurs.
Non, c'est un peu facile comme réponse, ça.
Mais en l'occurrence, aujourd'hui, on peut parler de ce qu'on connaît, hein, les sages-femmes qui examinent déjà aussi bien que certains gynécos pour des examens qui ne sont pas pathologiques, comme simplement un suivi gynécologique, ne l'utilisent pas forcément, n'en ont pas forcément besoin. Et surtout, il n'est pas utilisé sur des jeunes filles qui commenceraient leur vie sexuelle et qui n'ont absolument pas besoin d'examen invasif. Donc oui, si je peux, alors ça c'est une conviction tout à fait personnelle, mais d'après toutes les recherches qu'on a faites, on peut totalement affirmer que si l'histoire avait été différente, les pratiques auraient été différentes. C'est pas très difficile à réfléchir. Et donc, forcément, si les femmes avaient pu garder cette pratique, c'est des pratiques qui se transmettaient de femme en femme et de sorcière en sorcière à l'époque, pour pouvoir s'auto-examiner, probablement que l'invasion et la violence seraient différentes aujourd'hui.
Mais de toute façon, le procédé invasif est parfois malheureusement inévitable, mais on aura l'occasion d'y revenir. Et puis, il ne faut quand même pas minimiser le rôle des femmes dans l'histoire de la médecine en général et dans l'histoire de la médecine corps des femmes. Et en
c'est
particulier,
ce qu'on essaie de réhabiliter.
Le mannequin obstétrique au XVIIIe siècle a été inventé par une femme, justement.
Exactement.
Et moi, j'interprète un personnage qui s'appelle Angélique Marguerite Le Boursier du Coudray, voilà, qui est donc l'inventeuse d'une machine qui permettait d'enseigner l'accouchement et qui a été responsable de toute l'augmentation de la démographie en France à partir de Louis XV. Parce qu'elle a inventé une machine qui reproduit le bassin d'une femme en couche et qui D'accord. permet aux sages-femmes de s'entraîner et d'apprendre à accoucher. Et elle a été évidemment invisibilisée dans l'histoire. Elle a fait naître Lafayette.
Il y a donc plus de rue Lafayette que
de rue Angélique Marguerite Le Boursier du Coudray.
Mais laissez le temps à la conservatrice Société française d'appréhender tout ça et de l'assimiler.
Très conservateur, c'est ce que dit Benoît de Sarcus, qui est un grand professeur, le chef de la maternité de Nanterre, qu'on a interviewé, qui D'accord. a réduit le taux d'épisiotomie, ce qui est très important. Et
l'épisiotomie, rappelons, c'est un procédé que je trouve assez presque barbare,
voilà,
qui consiste lors de l'accouchement à donner, excusez-moi, un coup de canif
dans le sexe de la femme, et donc une mutilation du sexe qui est donc par l'OMS.
Et après, il faut recoudre des points de suture.
Voilà. Oh là L'OMS préconise de descendre en dessous de 3%. 5 à 3% de taux d'épisiotomie sur une primipare, c'est-à-dire une femme qui viendrait d'accoucher de son premier enfant.
Oui.
Et il considère que 5 à 3% serait tolérable, puisqu'il peut y avoir effectivement des complications qui le justifieraient. On est à 43% d'épisiotomie en France sur une primipare. Donc imaginez la proportion d'épisiotomie non nécessaire qui sont donc faites parce que, eh bien, comme le dit très bien Chantal Birman, il existe des conditions tout à fait inacceptables dans les services obstétriques aujourd'hui qui, sans tout justifier, expliquent les maltraitances dont nous parlons, puisque les médecins, qui ne sont pas incriminés du tout dans le spectacle, ce n'est pas la question, sont d'abord victimes eux-mêmes de conditions, avant tout le temps. Voilà, le temps est la question de l'hôpital. On est en ce moment en plein dedans. Hein. On sait que c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de lits, pas assez de temps pour traiter correctement les patients.
Et ça fait longtemps qu'on le dit, mais ça ne s'arrange pas.
Et encore, les mamans autour de moi disent en général que la prise en charge des femmes enceintes, de l'accouchement, etc., des visites pour préparer, remboursées par l'assurance maladie, quand elles comparent avec des amis à l'étranger, les Françaises ont énormément de chance. Et pourtant, tout ce que vous dites n'est absolument pas à nier.
Riche.
Alors, une petite précision, je m'excuse auprès des auditeurs d'Osmose Radio, on va aborder de sujets un petit peu intimes et de sujets un petit peu violents, et j'avais omis de le préciser en début d'interview dans ce spectacle, Spéculum, donc que vous utilisez cet instrument emblématique de la gynécologie pour baptiser le spectacle, avec cette compagnie Mi Fugue, Mi Raison. Alors, vous avez principalement utilisé votre expérience, des connaissances plus générales sur le sujet, bien entendu, et aussi nombre de témoignages, mais vous avez commencé par ces témoignages de vous-même, parce que finalement, si c'est vous, Caroline Saouquet, qui êtes responsable de la direction artistique de la compagnie, en fait, c'est une création collective entre vous trois, voire vous quatre.
Mais alors, on était quatre,
avec Delphine Billard, notamment.
Oui, on a voulu partir. On s'est dit que si on partait de notre histoire, c'était peut-être intéressant que la petite histoire devienne la grande histoire. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes, et de tous les âges, justement, et de tous les milieux, qui étaient confrontées ou qui avaient pu être confrontées, par exemple, à une fausse couche.
C'est dur à vivre, paraît-il.
Exactement, et on n'en parle pas. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, on n'en parle pas dans le spectacle, il y a tellement de choses à raconter.
On appelle ça les chagrins de femmes, c'est un peu banalisé, comme si ça faisait partie, en gros, des souffrances qu'on doit vivre.
Moi, à l'époque, c'était il y a assez longtemps, il n'y avait même pas de livre, il n'y avait même pas de que sais-je, vous voyez, les petits bouquins. Donc, et le fait d'en parler, en fait, d'en parler entre nous et de faire ce spectacle, de le jouer, ça permet, c'est comme un robinet à histoire qui permet à des femmes de s'exprimer, de dire « mais moi aussi, ça m'est arrivé et j'en avais jamais parlé ». Donc, ça libère la parole et le théâtre.
Mais la prouesse du spectacle, parce que je tiens à le dire tout de suite, c'est que justement, il n'y a pas de pathos dans ce spectacle. Le spectacle est extrêmement drôle. C'est-à-dire qu'on prend de la distance avec toute cette histoire.
Et de l'empathie avec tous les personnages.
On raconte une fresque de 3000 ans. C'est extrêmement dynamique. On est trois pour faire 50 personnages. Donc, Delphine Biard, qui n'est pas avec nous, qui arrive ce soir, on a hâte. Et de cette tristesse, parce qu'on a quand même fait un constat assez triste de l'état dans lequel se trouve l'hôpital et la santé des femmes aujourd'hui, quand bien même on est bien conscient d'être chanceuse pour des Françaises, enfin en France. Mais on a décidé de décaler, de raconter ça de manière souvent burlesque et puissante. Et en fait, le trash, le choquant, est drôle. Et c'est tellement grave qu'on arrive à en rire. Et d'ailleurs, dans le spectacle, la première phrase, c'est « Tout est vrai, même le plus invraisemblable ». Et les gens, à chaque fois, quand ils sortent du spectacle, ils disent « Mais c'est pas possible, vous avez inventé ». On n'a rien inventé. Tout ce qui est dit, c'est suite à 2 ans et demi d'enquête extrêmement précise et poussée sur le monde gynécologique.
L'autre grande qualité de ce spectacle, c'est toutes les jeunes qui viennent voir le spectacle et qui, en fait, apprennent beaucoup de choses. Et les hommes n'en reviennent pas parce qu'ils ne savent pas que ça se passe comme ça.
Qui daignent venir au spectacle, pardonnez-moi, parce que la grande qualité de votre spectacle, il y a aussi des hommes de grande qualité qui, justement, sont curieux. Mais je me dis, à tort ou à raison, que ce n'est pas forcément la majorité. Donc, quelque part, pour ce qui est des hommes, en tout cas, je pense que vous prêchez un peu des convertis.
Oui.
Réalité, c'est qu'il y a plus de femmes qui vont au théâtre en général. Et donc, quand elles arrivent, un spectacle qui s'appelle Spéculum, évidemment, il va rendre frileux les hommes qui déjà ne se sentent pas extrêmement, disons, en empathie par rapport au combat féministe. Mm-hmm. Mais quand une femme arrive à convaincre son mari de venir avec lui, en général, ils sont bouleversés. C'est les premiers qui nous remercient, qui veulent inviter leur fils, qui veulent...
Souvent, c'est qu'elles reviennent avec eux. On a joué pendant 2 ans à Paris. Le spectacle a été prolongé 6 fois.
Je précise que l'écriture du spectacle date d'il y a 4 ans, en fait.
2017, oui.
C'est ça. Et puis, on l'a joué beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Avant les confinements.
Voilà. On l'a même joué dans la rue. Nous avons même eu le premier prix du festival de jouer les tours des arts de la rue. Et les femmes reviennent avec leur mari, leur fils. Et ça, c'est super.
Prêcher des convaincus, de toute façon, c'est toujours le début d'un spectacle, c'est souvent comme ça. Mais il ne dure pas 2 ans s'il n'y a que les gens qui sont de la même chapelle qui viennent. C'est bien parce qu'il s'est passé quelque chose, un engouement plus qui est allé bien au-delà des collectifs féministes ou de l'entre-soi, qu'on est heureuse d'être ici à Avignon et qu'on se frotte à un public un peu différent en espérant que de toute façon, ce spectacle, c'est son histoire. Hein. Au départ, on voulait faire un spectacle sur les maltraitants gynécologiques. Tout le monde nous disait, mais faites pas ça, personne ne viendra jamais vous voir. C'est le plus gros succès de la compagnie. C'est peut-être notre plus gros succès à toutes les trois dans notre vie d'actrice. Et pourtant, elle est ancienne. Et on a fait des choses très belles avant. Mais c'est le spectacle qui a une vie qui nous dépasse. Puisque, en réalité, c'est un spectacle, on peut le dire, un spectacle politique. Donc, c'est un spectacle qui va au-delà de simplement notre propre histoire, de notre création. C'est qu'à un moment, il a touché au-delà même de ce qu'on aurait pu imaginer. Donc tant mieux, et j'espère que
le corps est politique de toute façon, hein. Ouais. Nous autres les garçons, on nous conditionne quand on est petit avec des jouets de garçons, de guerriers bodybuildés. On arrive à l'âge adulte, on est un petit peu bedonnant, on se dit j'ai loupé une étape, vous voyez. Donc, mais chez nous c'est beaucoup, on en parle beaucoup moins, mais en même temps c'est aussi moins grave que ce que subissent les femmes pour lesquelles c'est un serment quasi quotidien. Ouais. Donc effectivement, le corps est politique, pour rejoindre ce que vous disiez, et en faire une écriture au moins plutôt sur le ton de la comédie que de la tragédie, pour aborder ce sujet, c'était vraiment la chose à faire. Et effectivement, depuis 4 ans, vous me dites que le spectacle a du succès. Votre compagnie est basée à Pantin, donc vous l'avez surtout joué en région parisienne, mais pas que, puisque vous êtes à Avignon, ce festival Off 2021. Et en même temps, je ne peux pas empêcher de penser que c'est une progression générale. C'est-à-dire que moi-même, j'ai lu pas mal de choses, notamment sur Twitter, mais pas que, sur Internet en règle générale, puisque moi, je ne suis pas concerné directement par ces violences gynécologiques, ni obstétricales. Mais par rapport à mes amis, par rapport à ma copine, forcément, je suis curieux de ce qu'elles vivent, elles. Et c'est vrai que j'ai eu des ex-copines qui avaient des règles douloureuses. C'était extrêmement perturbant pour moi. Je ne savais pas quoi faire, comment réagir. Je n'avais aucune connaissance sur le sujet. Donc, indirectement, par ricochet, nous autres, les gars, on est concernés aussi. Et par conséquent, ça peut être l'intérêt de se renseigner sur le sujet, que ce soit par des recherches personnelles, comme je l'ai fait. Et donc, si j'ai trouvé des témoignages, moi aussi, si j'ai trouvé des articles ou des témoignages à la radio, c'est que c'est une tendance générale dans laquelle s'inscrit votre spectacle. Je prends un exemple bien précis dont vous m'avez dit hors antenne que vous l'aviez justement inclus dans votre spectacle. C'est pour ça que je me permets de le citer. C'était une dame qui se confessait à une à une grande dame de la radio qui s'appelle Sonia Kronlund et qui racontait que pour préparer un avortement qu'elle devait faire de toute façon, le gynécologue, dans une réunion, enfin un entretien préalable, lui avait fait une échographie, avait édité une photo du fœtus qui avait à peine forme humaine, qui était encore dans son ventre, en la posant sur elle, donc qui était quasiment allongée, un peu à sa merci, en lui posant la photo sur le ventre, on lui disait: vous voyez là, c'est son petit cœur qui bat. Et qui sort de la pièce immédiatement. La femme s'est retrouvée avec cette photo. C'est une situation d'humiliation délibérée. Et moi, ça me choque énormément. Tous les gynécologues ne sont pas des salopards. Il y a parfois de la maladresse plus que de la méchanceté. Il y a aussi parfois du conditionnement social qui vient plus de sa classe sociale et de son milieu que d'un endoctrinement à l'université. Allez savoir. Toujours est-il que ces choses-là existent et que vous les mettez en perspective dans votre spectacle.
Exactement. Toutes les causes multiples dont vous parlez qui font cette situation aujourd'hui de dysfonctionnement, alors partiel, hein, bien sûr, il y a des gynécologues merveilleux qui, en plus, et des gynécologues femmes merveilleuses qui ont envie de faire bouger les lignes avec nous, qui, quand ils viennent voir le spectacle, sont d'ailleurs absolument ravis que les lignes bougent. Mmh. C'était un des enjeux du spectacle, de ne pas orienter et de ne pas avoir la sensation que les médecins se sentent que attaqués dans ce qu'ils sont, mais bien de faire un constat clair et le plus objectif possible. Bien sûr, on a un point de vue, hein, mais le plus objectif possible, tout en remontant, en fait, en proposant, grâce à l'histoire, différentes raisons pour justifier ces causes. Et donc, quand on connaît les causes, eh bien, il est plus facile de les réparer et donc de transformer. Voilà. Il y a des sages-femmes merveilleuses qui nous ont dit: moi, j'ai arrêté mon métier parce que la manière dont on me propose de faire mon métier aujourd'hui n'est pas concevable. Donc, je suis obligée d'arrêter. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus triste, je trouve.
C'est dur parce que sage-femme, c'est un engagement, presque un sacerdoce, ouais. Tout à fait honorable.
C'est un métier c'est merveilleux de donner la vie, d'accompagner les femmes.
Symboliquement, c'est tout à fait c'est magnifique, c'est assez honorable, tout à fait. Alors, les thèmes, ce genre de thèmes liés au corps de la femme, vous l'avez déjà abordé par le passé. Je me souviens que vous aviez déjà réalisé un spectacle, pardonnez-moi, je perds mes mots, sur le thème des règles, notamment nous-mêmes à Osmose Radio, on avait parlé de l'endométriose à l'occasion de la journée du 30 mars, je crois.
8 mars peut-être, 8 mars, non ?
C'est la journée mondiale contre l'endométriose.
Ah oui, d'accord. Non, pardon, excusez-moi. Oui, j'ai cru que vous parliez.
Mais oui, le 8 mars, il y a de quoi faire aussi. Oui. Vous me direz.
Oui, bien
et
sûr, bien
je
sûr,
vois
sûr,
que vous
sûr.
Préparez un autre spectacle qui s'appelle Speculum 2, le retour, en quelque sorte. Mais là, bon, il est encore peut-être un peu tôt pour en parler, mais quelque chose qui m'intrigue, et là, vous l'avez suggéré. Quels sont les retours du public, les gens qui viennent vous parler après le spectacle? Vous avez cité une sage-femme, mais j'imagine qu'il y en a d'autres.
Ils sont très émus. Il y a souvent des personnes. Alors, il y a la génération qui est plus âgée que nous, qui, elles, n'ont pas pu parler des douleurs. Il y a beaucoup de choses qui ont été tues. On disait: tu souffres, ma fille, mais bon, moi, j'ai souffert, donc il n'y a pas de mots.
Il y a
mots.
Des mamans qui ont ce discours-là, ouais. Ouais. Moi, j'ai souffert, donc toi, tu vas souffrir,
voilà,
c'est normal.
C'est ça. Et donc, ces dames-là viennent et, en fait, sont très émues et parce que nous, on arrive à... Notre génération arrive à en parler. Donc, il y a ça. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, en fait.
Dans les retours,
il y a beaucoup
plus
d'émotions.
Plus d'émotions que de formulations précises, mais c'est pas grave. C'est...
Et beaucoup
après,
d'histoires.
Au contraire, enfin, je rejoins Flore. Il y a beaucoup d'émotions, mais il y a aussi, et c'est ça qui nous a donné envie de faire le 2, c'est que on s'est rendu compte qu'on n'a évidemment pas tout traité et que le spectacle libère la parole et que justement on est agrippé, mais c'est toujours charmant et toujours très agréable. Mais à la fin du spectacle, par au moins une 5-6 une dizaine de femmes, mais moi j'ai vécu ça, mais moi j'ai jamais parlé de ça, mais moi je me suis tellement reconnue là-dedans.
Je ne l'ai jamais dit et je vous le dis pour la première fois.
Et puis on a toute l'équipe d'une association très puissante, donc qui est très importante d'en parler, qui s'appelle Toutes contre les violences gynécologiques et obstétricales, VOG. Qui nous soutient. Elles sont toutes venues voir le spectacle, donc évidemment elles se sont énormément reconnues, mais on a également l'association du Distilben France qui est derrière nous.
De quoi s'agit-il?
Alors le Distilben, je vais laisser Flore
vous en parler. C'est un médicament qu'on donnait aux mamans, enfin aux dames qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, qui avaient des problèmes soit de stérilité, et on leur donnait ça pour qu'elles puissent tomber enceintes, et sauf que ce médicament avait été interdit aux États-Unis.
Mais il était toujours en Europe et ça a créé des difficultés.
C'est ça, exactement. Et donc, on a continué à le donner. Donc, les dames l'ont pris. Et puis, quelques années après, quand elles ont accouché d'enfants, Et quand ils se sont mis à avoir, à être ados ou pré-ados, soit les jeunes filles mouraient de cancer de l'utérus, soit les petits garçons avaient des malformations. Il y avait un sein qui sortait.
Des pénis atrophiés.
Voilà, même des parties du corps qui restaient atrophiées. Et donc, il a fallu un certain temps, beaucoup de mortes, pour qu'on se rende compte qu'en fait, il y avait une association avec ce médicament. Et les femmes, donc c'était affreux parce que ces mères sont rentrées dans une culpabilité terrible, sauf qu'elles n'y étaient pour rien. Et ça a été tu, parce qu'il y avait les labos pharmaceutiques qui, lors des procès, disaient, bon, enfin, voyez le truc.
Oui, bien sûr.
Voyez, bon. Et donc, voilà. Donc, on a traité ce sujet. On avait même pensé au départ, c'est tellement vaste et ça a été tellement affreux.
C'est tellement
histoire.
Vaste, mais c'est un sujet que vous viendrez redéfendre à l'antenne, parce que là,
exactement.
Hélas, l'heure tourne.
Et, venez nous voir, parce que je raconte toute cette histoire dans le spectacle.
Ah, donc voilà. Vous savez maintenir le suspense, pour le coup, dans ce spectacle Speculum, du 21 au 31 juillet, au Théâtre de la Condition des Soies, à 12h45. Merci Caroline Sahuquet.
Merci beaucoup, et n'ayez pas peur, c'est drôle.
Oui, merci beaucoup.
Mais, et puis, souhaitons que les couronnes de fleurs dont vous êtes ornées dans le studio aujourd'hui soient à l'aune de celles que vous jeterons le public sur la scène d'Avignon.
Merci beaucoup.